à la parole de Dieu, le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et comme c'est de circonstances, on va parler de résolutions. Est-ce que vous avez pris des résolutions cette année? Alors quand je parle de résolutions, j'aimerais parler de résolutions mais qui durent. Pas celles que l'on fait la première semaine de janvier et puis qu'on oublie assez tôt. Je regardais quelles sont les bonnes résolutions les plus adoptées en 2025. Elles ne changent pas, en fait. Et si on prend 2024, 2023, 2022, c'est toujours les mêmes. En premier, pratiquer une activité physique. Et oui, hein, après avoir bien mangé, il y a besoin de se remettre au sport. En deux, vient passer du temps avec ses amis et sa famille. Ça aussi, c'est précieux, hein, la famille. Se réserver des moments de détente. Avoir un rythme de sommeil plus régulier. S'alimenter de façon plus équilibrée. Passer moins de temps devant les écrans. Faire un régime. Certains se sont reconnus. Voilà, je ne sais pas dans cette liste à quel moment vous avez été interpellé, mais en fait, c'est ce qui revient en général. Et on s'aperçoit, il y a ce phénomène dans ces résolutions, un phénomène, je l'ai encore regardé aux infos cette semaine, c'est concernant donc les résolutions de début d'année, c'est-à-dire que les salles de sport, c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le plus d'inscriptions. Le plus d'inscriptions, donc ils abondent en inscription, et il y avait un responsable qui disait, mais on sait très bien que d'ici la fin janvier, ça sera terminé. Moi, j'aimerais vous parler ce matin de résolution, mais de résolution qui dure. Parce qu'il y a une définition dans la parole de résolution. Dans la parole, la résolution veut dire mettre en place de façon définitive. Servir, c'est disposer, c'est désigner, c'est faire, c'est poser, c'est fixer, déposer. Et j'aime beaucoup la dernière définition. Poser violemment les mains. Il y a besoin de se faire violence. On sait que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il est dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors on ne parle pas de la violence physique, mais souvent c'est la violence contre nous-mêmes, la violence contre la chair qui aimerait et qui souhaiterait nous éloigner du Seigneur. Et j'aimerais vous dire et vous lancer ce défi en cette année 2025. Et c'était l'année de tous les exploits. Et si c'était l'année où, finalement, je changeais mon fusil d'épaule, que, finalement, je m'alignais à la volonté de Dieu, et si c'était cette année, une année décisive pour moi et pour ma vie. Alors, quand on parle de résolution, évidemment, on parle de résolution pratique. On va lire un passage qui va nous servir de fil conducteur. On va y revenir régulièrement. On va lire ce passage qui se trouve dans le livre de Job, chapitre 22, à partir du verset 21. Job 22, verset 21. Nous lisons donc ceci. « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. » Verset 28. « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce passage qui vient nous parler. Et tout d'abord, on s'aperçoit qu'au verset 21, il y a une action qui nous est demandée de la part du Seigneur. La première des actions est pour nous. Par répercussion, la première des résolutions, c'est de rester attaché au Seigneur. Nous qui avons à un moment donné reçu cet éclairage. Le Seigneur est venu, lui qui est la lumière. Il a éclairé nos cœurs. Et dans la noirceur de notre péché, nous avons vu qu'à un moment donné, nous étions perdus, loin de lui. Et lui, il nous a attirés à lui, alléluia. Et nous voulons rester attachés parce qu'il y a un ennemi, il y a la chair, il y a le monde qui est là pour essayer de nous déstabiliser afin de pouvoir nous détacher, nous séparer de l'amour de Dieu. Mais à un moment donné, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, va dire, va faire cette déclaration, il va dire, mais qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Il va mettre en évidence ce par quoi, lui, il a pu traverser, il a traversé des moments, des situations difficiles. Alors des fois, quand on dit, je traverse des moments difficiles, certes, mais souvent on se compare avec celui peut-être à nos yeux, à moins que nous, ou est-on au-dessous de nous. Mais quand on se compare à l'apôtre Paul, lui qui a vécu des choses quand même terribles, mais il va dire, et il va faire cette déclaration, mais rien, non, rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Alors c'est une action à s'attacher. Finalement, s'attacher au Seigneur, c'est le travail de toute une vie. Et ça demande de la persévérance, ça demande de la constance, ça demande un effort pour moi-même, envers la chair. Un jour, j'avais vu une image sur Internet, et cette image disait, si ta chair veut pas aller à l'église, il faut que tu la traînes. Parce que c'est pas elle qui doit diriger finalement notre vie. Mais rester attaché à Dieu, c'est le travail de toute une vie. Tout d'abord, pour pouvoir rester attaché au Seigneur, il faut se détacher de certaines choses. Ça semble tellement logique. Se détacher, c'est rompre un attachement, se détacher des biens matériels, avoir le contentement de ce que Dieu nous donne. Et c'est à ce prix que le Seigneur nous donnera davantage. Si nous tenons fermement à ces choses, si elles sont principales dans nos vies, alors nous ratons le but de ce pourquoi le Seigneur est venu éclairer nos vies. Biens matériels, standards de vie, loisirs, ces choses-là, si elles sont au centre de nos vies, elles pourront que nous éloigner du Seigneur. Nous voulons nous détacher de ces choses-là. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre pauvrement, donner tous nos biens? C'est pas ça. Hein. Mais il y a ce détachement spirituel de dire, Seigneur, dans la situation où je me trouve, je veux quand même te louer. Je veux t'adorer pour tout ce que tu me donnes. Et si à un moment donné je passe par une situation un peu plus compliquée, mais quand même Seigneur, tu es quand même digne d'être loué et d'être adoré. Alléluia. Le détachement, c'est une libération. Vous vous souvenez du jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche. Il avait une bonne attitude. Hein. Il cherchait dans son cœur à savoir qui était Jésus. Il avait une question qui hantait sûrement toutes ses pensées. Mais comment faire pour hériter, avoir la vie éternelle. Et puis, il avait sûrement entendu parler du Seigneur Jésus. Il va courir, il va se jeter aux pieds de Jésus et il va l'appeler maître. Et que faut-il que je fasse? Lui, il était dans le faire. Et le Seigneur, dans un discours, un dialogue avec lui, il va lui donner certaines choses. Il dit, mais ces choses-là, je les ai faites. J'ai observé les commandements. Et déjà, les commandements qu'il avait observés, c'était pas mal. Ça plaçait déjà la barre très haute. Mais le Seigneur va aller chercher ceux qui, finalement, le tenaient. Ceux qui étaient la priorité dans sa vie. Pour lui, c'était l'argent. Le Seigneur, il n'y a rien, il n'y a pas de souci avec l'argent. C'est l'attachement à l'argent qui est un souci, on le dit, on le répète. Mais ce jeune homme, il y a des versets comme ça dans la Bible qui sont tristes. Il y a ce verset qui dit, eh bien, cet homme, il partit tout triste. C'est terrible. Hein. Alors qu'il avait cette question, le Seigneur lui donne la solution, il n'a pas voulu l'accepter parce qu'il y avait des choses qui dominaient. Oui, le détachement de ces choses, c'est une libération. Quand on est détaché de ces choses-là, il y a également une clé qui ouvre les bénédictions de Dieu. Parce que si il y a un attachement excessif à certaines choses dans nos vies qui peuvent nous éloigner de Dieu, le Seigneur ne nous le donnera jamais. C'est tellement logique. Mais alors, comment s'attacher? Ici, il est parlé d'une action, attache-toi donc à Dieu, s'attacher à Dieu, mais comment? On s'attache à Dieu, on s'attache à quelqu'un parce que l'on a des sentiments. En général, dans la vie, c'est comme ça, on s'attache parce qu'on a des sentiments. Et avec le Seigneur, on s'est attaché et on veut rester attaché à lui parce que nous avons des sentiments d'amour avec notre Dieu. On a compris et ça nous a été révélé que l'amour a été prouvé à la croix du calvaire. Et quand on le réalise, on dit « Seigneur, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me suis converti, j'ai dit « Seigneur, c'est trop. Je suis comme pauvre pécheur. Je ne mérite pas ce salut. » Et quand on est dans cette attitude-là, alors c'est là où le Seigneur nous inonde de sa grâce et de sa bonté. Alléluia. Et depuis, il y a cette relation d'amour avec le Seigneur. Et que le Seigneur fasse, et je veille pour moi-même, et chacun doit veiller pour lui-même, à garder cette relation d'amour avec le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, c'est motivé par l'amour. Je ne lis pas la Bible pour essayer de mériter quoi que ce soit. Je lis la Bible parce que mon Dieu m'a laissé une lettre personnelle et il me parle tous les matins. Il me donne le moyen de rentrer en connexion avec lui par la prière. Quel privilège! Ce n'est pas simplement quelque chose de superstitieux aujourd'hui. Voilà, il faut absolument que je prie pour la protection, sinon il va m'arriver quelque chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est reconnaître qu'on a accès à ce Dieu qui est grand, qui est bon, qui est miséricordieux pour chacun d'entre nous. Et il y a un résultat, verset 21. Il dit alors, si tu, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Dites-moi, ici-bas sur terre, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que la paix? On est en paix. Ça peut s'agiter autour de moi, mais la paix que Dieu donne, elle surpasse toute intelligence. Et cela sous-entend qu'il y a des fois, on aurait de quoi s'inquiéter. Mais nous sommes en paix parce que nos destinées sont dans les mains de notre Seigneur. Alléluia. Et souvent, ça nous est arrivé, on aurait eu de quoi s'inquiéter. Une confiance totale, ça c'est la foi, une confiance, une assurance que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, il allait nous en sortir. Alléluia. Parce que dans les passages qu'a pu prendre tout à l'heure Vincent, et ça a été dit, Ésaïe 43, 44, il y a plein de promesses où le Seigneur dit « Mais je serai avec toi, ne promène pas de regard inquiet, je suis là. » Et souvent, nous aurions tendance à regarder ailleurs. Tant qu'on regarde au Seigneur, on est rempli de foi, de confiance et d'assurance. Alors, ne nous arrêtons pas de regarder et de garder la confiance à notre Seigneur. Avoir la paix, un trésor inestimable, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit également, tu jouiras ainsi du bonheur. Si je posais la question ce matin, qui veut le malheur pour sa vie? Personne. On n'est pas fou, on ne marche pas sur la tête. Le bonheur, c'est ce que nous recherchons, chacun d'entre nous. Alors ici, il y a finalement ce secret qui nous est révélé. Attache-toi à Dieu et ne te laisse pas détacher par quoi que ce soit. De pouvoir garder. Ça, c'est peut-être la première résolution que nous pouvons faire. Chacun d'entre nous, et moi-même, je m'inclus dans le lot. Seigneur, je veux rester attaché à toi. La première des résolutions, aide-moi dans cette année 2025 à rester attaché à toi. Alléluia. On ne sait pas ce que 2025 nous réserve, mais nous voulons rester attachés au Seigneur. Il y aura sûrement des belles et des bonnes choses. Peut-être il y aura des moments difficiles. Parce que le Seigneur, dans les moments difficiles, c'est là où nous sommes accessibles pour écouter, pour obéir. Et oui, l'être humain, il est comme ça. Vous rappelez de ce verset? Je la conduirai au désert et là, je parlerai à son cœur. Pourquoi la conduire au désert? Au désert, ce n'est pas un endroit où on va simplement se promener, se balader. Mais le désert, c'est la rudesse. Il y a le soleil qui frappe. Et le Seigneur a voulu conduire son peuple dans le désert afin qu'il soit attentif à ce que Dieu voulait lui dire. Et des fois, le Seigneur peut nous amener dans des déserts afin que nous soyons attentifs et que ne soient pas simplement que des paroles en l'air ou simplement des formules, comme on a l'habitude de donner. Souvent, c'est voilà, je te souhaite le meilleur vœu, surtout la santé. Dans le monde, certains disaient surtout l'argent. En général, c'est comme ça. Mais au milieu de nous, que nous puissions prendre cette résolution, une action à s'attacher à notre Seigneur. Alléluia. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Au verset 22, il y a une décision qui doit être prise et cela personnellement. Chacun d'entre nous devons prendre cette décision. Regardez verset 22. « Reçois de sa bouche l'instruction, c'est-à-dire l'enseignement du Seigneur. Et mets dans ton cœur ses paroles. » Alléluia. Le Seigneur nous a laissé une promesse. Il a dit qu'il allait nous instruire. Et on le retrouve cela dans le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Dites-moi, quand on lit ce verset, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Quand on regarde le psaume 32, il dit « Je t'instruirai, je t'enseignerai. » Et c'est lui qui veut nous enseigner encore des choses que l'on ne connaît pas. Jérémie 33, verset 3. « Je te montrerai des choses que tu ne connais, des choses cachées que tu ne connais pas. » S'il y a quelqu'un ce matin qui pense avoir fait le tour et qu'il se dit « Maintenant, ça y est, c'est terminé, vous êtes en danger. » Le Seigneur veut nous faire découvrir encore certaines choses. Et moi, j'aspire, j'ai soif, personnellement, en tant que responsable également d'église, d'aller plus loin, que le Seigneur nous instruise, qu'il nous montre la voie que l'on doit suivre, alléluia. Et le suivre, lui, et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Mais parce que lui connaît la destination. Tout simplement, il connaît l'itinéraire. La voie que tu dois suivre, je te conseillerai. Dans le monde, on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Lui, il a payé, il peut conseiller. Alléluia. Il a payé, c'est là aussi, on pourra la retenir, peut-être que, je trouve que c'est pas mal. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, alléluia. Il n'y a personne ici ce matin, personne qui soit en dehors du regard de notre Seigneur, alléluia. Amen. Et ça, quand on pense à regard, ça me fait penser un peu à cette histoire. 430 ans d'esclavage, le peuple en Égypte. Et puis, à un moment donné, l'Éternel a vu, l'Éternel a entendu et il est descendu, il est intervenu. Alléluia. C'est le Dieu que nous avons, qui est, dans lequel nos vies lui appartiennent. Alléluia. Et pour cela, il faut une décision personnel, recevoir de sa bouche l'instruction, pas de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. Il y a eu un phénomène pendant le confinement, et quand je voyais certaines choses, je me disais, waouh, on y va tout droit dans ce que la Bible nous dit. C'est que plusieurs se sont inventés un ministère d'évangéliste sur les réseaux sociaux. On parlait hier avec les jeunes d'appel, d'appel, de consécration, d'onction du Seigneur. Certes, si on regarde dans son ensemble, quelqu'un pourrait dire, mais c'est pas mal. Hein. Et moi, je crois que pour toute chose, il faut un appel du Seigneur. C'est non négociable. Alléluia. Donc, une décision personnelle à recevoir l'instruction du Seigneur, aimer, pas n'importe où, dans ton cœur, ces paroles. Méditez les paroles de notre Seigneur. Alléluia. Dieu désire que ces instructions soient gravées en chacun d'entre nous. Amen. Au verset 23, il y a une action divine. Regardez ce qu'il est dit. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Peut-être que quelqu'un a besoin d'être rétabli ce matin. Un rétablissement d'une certaine situation. Mais si tu pensais ce matin sur mon cœur, voilà que peut-être que À un moment donné, quelqu'un avait donné sa vie au Seigneur, et puis, par les circonstances de la vie, à un moment donné, on a dévié. Certes, ce n'est pas flagrant hein, aux yeux de tous, mais on a dévié, nos priorités ne sont plus les mêmes. Le Seigneur nous appelle à rétablir, à rectifier la situation. Vous avez sûrement entendu l'image de ce bateau qui, à un moment donné... Alors, le dérèglement, hein, au niveau du pilotage, il n'était que de quelques millimètres. Il y a eu simplement un petit dérèglement. Mais sur la distance, il s'éloignait de plus en plus de son cap. Et des fois, dans la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Et le Seigneur nous appelle à revenir, à rétablir certaines choses, rétablir une situation, à relever la tête. Plusieurs fois, on le trouve dans la parole de Dieu. Hein. Relevez vos têtes. D'ailleurs, le Seigneur, quand il va annoncer les événements qui prendront place avant son retour, il va dire, mais vous, relevez votre tête, car votre délivrance, elle arrive. Ce n'est pas le temps de rester dans la défaite. Relever la tête, c'est une attitude de victoire, hein, une attitude de conquête. Alors, on a besoin peut-être de rétablir certaines choses. Sortir de l'impasse. Certains tournent en rond depuis certains temps. Pour cela, il y a deux conditions. Il est dit, si tu reviens au Tout-Puissant, alléluia, et quand on prend cette décision de revenir au Tout-Puissant, il y a une réalité qui est nôtre ce matin et que chacun doit entendre, c'est qu'il nous attend toujours les bras ouverts. C'est l'histoire du fils prodigue, vous vous rappelez? Ce fils prodigue, ingrat, irrespectueux, qui dilapide l'héritage qui a été donné. Il y avait comme mal-être, on a tous vécu, peut-être, enfin, moi en tout cas, certains ados, quand j'aurai 18 ans, je pourrai partir loin de mes parents, je pourrai faire ce que je veux. Et à un moment donné, peut-être c'était le cas de ce jeune, il était frustré, il y avait une frustration qui était là, et puis il va demander son héritage, il va partir, et puis voilà, il va tout dilapider. Et quand il est interpellé par l'action du Saint-Esprit, c'est d'abord le Seigneur qui agit. Si vous lisez le passage, il est dit qu'à un moment donné, c'est sa conscience qui va se réveiller. Il va se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, c'est parce que le Saint-Esprit commence déjà à agir dans nos cœurs. Il dit, mais finalement, dans la maison de mon père, j'avais tout ce qu'il fallait. Et là, je me retrouve là, dans la misère. Alors, si ça s'arrêtait là, parce qu'il y en a, beaucoup hein, qui réfléchissent, mais qui ne vont pas plus loin. À un moment donné, il faut poser une action également. Il dit, mais je me lèverai. J'irai chez mon père. Et je dirai à mon père, vous connaissez la suite, il n'a pas eu le temps de tout déballer, parce que son père attendait tous les jours. Sûrement, il regardait l'endroit où son fils devait revenir pour voir s'il voyait au loin la silhouette de son fils. Et quand le jour précis, la silhouette, il a reconnu la silhouette de son fils, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas attendu avec un bâton, avec des remontrances. Il a relevé les pans de sa robe et il a couru, il l'a embrassé, il s'est jeté à son cou et il a embrassé. Quelle belle image de l'amour de Dieu. Combien de fois nous sommes infidèles ? Parle pour moi. Combien de fois on est rattrapé par le Saint-Esprit ? On revient dans la volonté du Seigneur, jamais, jamais le Seigneur nous a fait quelque reproche que ce soit. À chaque fois, c'était les bras ouverts. Ensuite, il nous donne des conseils. Et il faut que ça serve de leçon pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Et des fois, certaines personnes n'avancent pas, ne progressent pas dans leur marche chrétienne. C'est parce qu'en fait, ça ne sert pas de leçon. Et ils tombent toujours au même endroit. Et des fois, nous devons évidemment poser une action. Donc deux conditions nécessaires, revenir au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente du milieu de ta maison, si tu arraches, si tu enlèves l'iniquité et la corruption morale, donc revenir, s'éloigner du péché, si tu fais cela, alors il va y avoir une bénédiction de la part de notre Seigneur. Verset 24, nous avons besoin d'une compréhension divine, parce que ce verset, il est étonnant. Verset 24, « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. » Voilà donc un verset étonnant que l'on n'a pas forcément envie d'appliquer à la lettre. Celui-là, on va y aller à reculant. « Seigneur, c'est sûr, j'ai besoin que tu me confirmes certaines choses. » En fait, ici, ça nous parle d'équilibre. C'est l'équilibre de Dieu. Dieu nous donne selon nos besoins. Et se détacher, on l'a vu tout à l'heure, et ne surtout pas s'attacher au matérialisme pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Alors nous devons trouver cet équilibre. Ce n'est pas simple, parce que souvent l'être humain, il est dans l'excès. Soit il penche de côté, soit de l'autre. Et s'il est dans un certain équilibre, il ne va pas y rester longtemps. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre comment il agit. C'est ce que je vous disais, jeter l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. C'est-à-dire, ok, on a besoin de certaines choses pour vivre, mais ce n'est pas ce qui est primordial dans nos vies. Ce n'est pas ce qui est finalement nécessaire. On a du mal des fois à comprendre que le Seigneur, il se préoccupe des oiseaux, des petits oiseaux. Il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Si moi je donne à manger aux petits oiseaux, alors je m'occuperai de vous. Et là, c'est quand même aussi cette image, hein, parce que nous avons tendance à nous inquiéter pour un oui, pour un non, il y a ceci qui ne va pas. Mais que en 2025, nous puissions avoir également cette compréhension divine du plan du Seigneur pour nos vies. Alléluia. Verset 25, il est dit, « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le cas? Amen. Merci pour ce oui spontané. Amen. Oui, c'est ça. Hein? « Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Que le Seigneur soit béni. Pour cela, il faut une acceptation du plan de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur a un plan pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Un plan pour nous tous. C'est merveilleux. Verset 26. « Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. » Si, ce qui était très important, c'est de dire « alors », ce qui sous-entend. Et ensuite, une fois que tu auras fait tout ça, donc au préalable, verset 26, « alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. » Alléluia. Plaire au Seigneur, que ma vie glorifie mon Dieu. Amen. Le psaume 37, verset 4, nous encourage également en nous disant, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parenthèse, s'il y a quelque chose que l'on demande au Seigneur qui n'est pas bon pour nous, on peut demander, on peut pleurer, on peut gémir, le Seigneur ne le donnera pas parce qu'il nous aime. Parce que des fois, on le comprend mal, hein, ce verset. Tu donneras ce que ton cœur désire dans la mesure où notre cœur se préoccupe des affaires du Seigneur. Évidemment. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Je ne sais pas comment vous voyez le mot délice. C'est quelque chose de délicieux. Alors, délicieux, vous avez tous une image là, chacun d'entre vous, on essaie d'imager, mais faire de l'Éternel finalement ma priorité, ce qui est au centre de ma vie, et il nous donnera ce que notre cœur désire. Parce que si le Seigneur est au centre, alors nous aurons les désirs de Dieu, nous serons connectés, nous aurons les mêmes besoins finalement. Amen. Tu élèveras vers Dieu ta face. Ça appelle à la reconnaissance. Frères et sœurs, je crois que dans les résolutions, en tant qu'Église, il est impératif que dans ce lieu, à chaque fois qu'on se réunit, il y ait de la reconnaissance. Parce que le contraire, c'est de l'ingratitude. Parce que le Seigneur nous a donné beaucoup. Et des fois, on oppose au Seigneur, on dit, mais Seigneur, je traverse des moments difficiles. Est-ce que parce qu'on traverse des moments difficiles, le Seigneur est moins digne d'être adoré? Évidemment que non. Et vous savez que quand on parle comme ça, je le répète régulièrement, on parle pas, on donne pas des paroles en l'air, c'est parce qu'on l'a vécu en fait. On est passé par des moments difficiles, mais on a fait cette promesse à Dieu de le louer, quoi qu'il arrive. Il y a ce chant qui dit, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, mais que ton nom soit béni. Alors de le chanter, c'est une chose, mais quand on le vit, ça n'est une autre. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par là? Il veut nous montrer que, en tout temps, en toutes circonstances, que si on se préoccupe de le louer, qu'il y ait de la reconnaissance dans notre cœur, il va s'occuper de ce qui nous tracasse. Il va s'occuper de nos problèmes, de nos difficultés. Vous savez, pour le Seigneur, certaines situations, un mot de lui, la situation, elle est réglée. D'une seconde à l'autre, le Seigneur intervient, c'est réglé. Parce que le Seigneur est tout puissant. Amen. Verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Si on prie selon sa volonté. Également, une autre résolution, c'est Seigneur, je veux m'engager davantage dans la prière. Sans la prière, frères et sœurs, on n'aura que des vies, voilà, celles que nous avons, voilà, pour le moment. Pas des moments de prière. Parce que dans nos vies, nous avons tous des moments de prière. Mais bâtir une vie de prière. Pas simplement se présenter devant le Seigneur et lui apporter toute ma liste. Seigneur, des fois les prières, hein, mais bon, c'est des défauts de langage. Hein. Des fois, on s'adresse au Seigneur et on lui dit, c'est vrai, des fois c'est de la folie même. Hein. Seigneur, tu vois? Seigneur, tu vois? Le Seigneur, il dit, oui, oui, je vois. Eh oui, et que nous puissions nous engager dans la prière, afin qu'il y ait des choses qui se passent. Dans les lieux ténébreux, l'ennemi est en train de faire une œuvre de destruction terrible dans les cœurs. Au milieu de la jeunesse, encore hier, je regardais aujourd'hui, on n'a pas peur de s'afficher avec tout ce qui est magie, cartomancie, voilà, les esprits. Les personnes n'ont pas peur de s'afficher. Et nous devons nous tenir vraiment voilà, sur la brèche afin que l'Église soit appelée un lieu de prière. D'ailleurs, il va le dire, hein, ma maison sera appelée une maison, pas de prédication. Pas de louange, sera appelée une maison de prière. Le reste, ça découle, évidemment, hein, vous le comprenez. Une maison de prière. Mais si les seuls moments où je prie, c'est les temps où on se réunit ici, vous comprenez très bien que ce n'est pas une vie de prière. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin. Ça n'a rien à voir, hein, quand je parle de temps de prière, de vie de prière, ça n'a rien à voir avec le temps. Parce que nous, hein, on pourrait le qualifier comme ça. Voilà, j'ai passé un bon moment dans la prière, j'ai passé une heure dans la prière pour quelqu'un. Hein, peut-être une heure, c'est extraordinaire. J'ai passé une heure dans la prière. Des fois, on peut passer une heure dans la prière et le cœur n'y est pas. En fait, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de la qualité du moment que je passe avec le Seigneur. Alléluia. Ça nous est tous arrivé, hein. À un moment donné, pilotage automatique. Seigneur. Eh oui, hein. À un moment donné, voilà, s'arrêter, chercher la face du Seigneur, que le Seigneur puisse nous parler aussi. Alors, je sais qu'on a des plannings assez chargés, hein, le matin, vous avez remarqué, hein, le réveil, et puis la journée, elle démarre. Et quand on a pris notre second souffle, ça y est, c'est le temps d'aller se coucher. Hein, en général, c'est comme ça. Mais si on ne prend pas le temps d'avoir cette vie de prière, alors on ne pourra pas voir certaines choses que le Seigneur veut nous faire voir. Et tu accompliras tes vœux, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Il y a même un verset où il est dit, si tu fais un vœu au Seigneur, hâte-toi de l'accomplir. Parce que sinon, il y a également des conséquences à cela. Que nous puissions faire ce vœu, ces résolutions, de plaire au Seigneur, d'avoir une vie de prière. Alors, verset 28, et on a terminé par là, à tes résolutions répondra le succès. Et là, encore une fois, je pose la question, qui veut avoir du succès pour sa marche spirituelle? Ben tous, hein. Si on faisait un sondage, 100%, évidemment. Alors, s'il y a ces résolutions, si elles sont trouvées dans notre cœur, alors, assurément, il y aura un succès qui sera certain. D'ailleurs, dans la parole, on trouve un verset qui nous parle de succès. C'est Josué, chapitre 1, verset 8. Ici, c'est concernant la loi, concernant la parole, on peut faire une retranscription par rapport à chacun d'entre nous. C'est la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Une autre résolution, c'est que la parole soit celle qui nous dirige. Que ce ne soit pas, à un moment donné, nous-mêmes, nos propres émotions. Il y a ce conseil qu'il a, que ce livre de la loi ne se lègne pas. Le contexte, on le connaît, hein, Josué, il était dans une situation. Il devait prendre la suite d'un homme de Dieu. Moïse, on peut le qualifier d'homme de Dieu, hein, vous êtes d'accord avec moi. Hein. Il avait une relation avec Dieu qui était particulière. Et lui, il doit prendre la suite. Moïse est mort, il doit prendre la suite. Il est effrayé. Il est même découragé parce que avant ça, il dit ne te décourage pas. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je lise la parole nuit et jour? Évidemment que non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut la connaître. Il faut en être imprégné. Alléluia. Pour que à n'importe quel moment qu'on ait besoin, lors d'une tentation, à un moment donné, d'une épreuve, on puisse se rappeler que Dieu est fidèle, que Dieu nous a laissé des promesses. Alléluia. Amen. Et la fin du verset 28, il est dit, « Sur tes sentiers brillera la lumière. » Alléluia. C'est-à-dire, partout où je vais marcher, la lumière du Seigneur sera là. Je ne marcherai pas dans le noir, parce qu'il est lui-même la lumière. Alléluia. Donc, sur tes sentiers brillera la lumière. Jésus nous guide. Amen. Jésus nous dirige. Il est la lumière. Amen. Dernier verset, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Amen. Je conclue en vous donnant quelques résolutions pratiques, on l'a vu, et des résolutions qui durent. Peut-être prendre un engagement à lire la Bible. Dernière fois, on a parlé avec les jeunes, justement, on a fait un cours sur la bibliologie, et j'avais posé la question, qui a déjà lu la Bible en entier? Je ne vais pas le faire ici ce matin pour mettre mal à l'aise personne. Mais je crois que plus que jamais, on a besoin de lire la Bible et dans l'équilibre. Certaines personnes, à un moment donné, je connais par exemple quelqu'un, il lisait que les psaumes. C'est comme si vous mangez que de la viande. À un moment donné, ça ne fonctionnera pas au niveau du corps. Et pour d'autres aliments également. Peut-être que c'est le moment, durant cette année, de se dire, je vais me fixer un objectif. Je veux lire ma Bible en entier. Demain, dans les annonces qu'on envoie, en général tous les lundis, ça n'a pas été fait les deux derniers lundis, avec les fêtes, tout ça, c'était compliqué. Mais vous allez recevoir normalement des plans pour lire la Bible en un an ou en 6 mois. Alors, en 6 mois, il faut y aller. Mais si on est discipliné, je crois que pour plein d'autres choses, on est discipliné. Quand on veut, on peut. Et quand on ne veut pas, on cherche des excuses. Vous connaissez, souvent, c'est comme ça. Peut-être s'engager, prendre cette résolution de lire la parole, prendre la résolution de servir à l'Église. On préfère naturellement être servi. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. C'est avoir plaisir à servir les autres. Il y a plein de pôles où il manque des personnes. Alors, servir. Chacun à son niveau, à sa portée. Peut-être prendre des résolutions, apprendre plus de Jésus. Et pour apprendre plus de Jésus, il faut que je passe du temps avec lui. Peut-être se fixer un objectif d'évangélisation. Inviter un ami à l'église. Et surtout pas, comme des fois ça se fait, on invite un ami à l'église, on ouvre la porte, on ferme la porte, et tout le monde lui saute dessus. Non, Inviter quelqu'un, prier pour cela, que le Seigneur suscite des opportunités. Parce qu'il y a des drames qui se passent, que des gens vivent, des personnes que l'on côtoie. Donc peut-être se fixer cet objectif-là. Apprendre des versets par cœur. Certains vont dire, j'ai pas de mémoire. On se souvient toujours quand on a faim, quand on a soif. Alors, apprendre des versets par cœur. Peut-être que cette année également, pour quelqu'un, ça sera quelque chose de nouveau. De temps en temps, jeûner et prier, prendre du temps, se poser et dire, il y a des choses qui sont essentielles telles que la nourriture. Ben, aujourd'hui, je ne vais pas manger, pas pour essayer d'éliminer. Parce que des fois, on dit, on jeûne, c'est pour... Pour éliminer, je l'ai entendu en fait, c'est pour ça que je dis ça. Mais jeûner pour prendre du temps pour se consacrer au Seigneur, alléluia. Également, faire un pas de foi et dire oui à Dieu. Et ça, j'ai tenu à vous le dire, à vous le partager, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un que le Seigneur appelle, le Seigneur a parlé à quelqu'un, puis on résiste, on a peur, plein d'incertitudes. Le Seigneur nous demande ce matin et dans le courant de l'année de faire un pas de foi et de dire oui à Dieu, lui s'occupera du reste. Alléluia. Puis, ce qu'on pourrait peut-être mettre en place, chacun d'entre vous aussi, personnellement, c'est partager mon témoignage à quelqu'un et que ce soit comme un fardeau. Seigneur, je veux partager le témoignage à quelqu'un. Donne-moi des opportunités. Vous savez, des fois, on est étonné. Alors, si vous arrivez dans la rue, vous dites, écoutez-moi, je vais te partager mon témoignage. Bon, c'est sûr que les gens, ils vont partir en courant. Moi, j'ai été souvent étonné où j'ai pu partager mon témoignage personnel, témoigner du Seigneur, en parlant de la pluie et du beau temps. Et il y aura toujours quelque chose qui va raccrocher. La dernière fois, par exemple, j'étais chez le coiffeur, puis... On a commencé à embrayer sur une discussion. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Et là, vous faites quoi comme métier? La question fatidique. Et là, pour moi, évidemment, quand on me pose la question, vous faites quoi? Alors, quand je leur dis, je suis pasteur, comment? Et là, c'est parti. Donc, que le Seigneur suscite durant cette année plein d'occasions de pouvoir partager mon témoignage. Il faut que ce soit en adéquation avec ce que je vais dire. Parce que des fois, on était surpris. Je vous l'avais dit, ça aussi, je crois. À un endroit où je travaillais, dont il y avait un chrétien, à un moment donné, je lui disais, arrête de témoigner. Je t'en supplie, arrête. Et oui, parce que sa vie à côté, n'était pas à la gloire de Dieu. Et puis il disait, Dieu est capable de changer ta vie. En fait, c'est un témoignage qui était contre-productif. Alors voilà, quelques résolutions pratiques que chacun peut mettre en place. Personnellement, que le Seigneur nous aide. Et puis également, mon souhait, en tant que pasteur, responsable de l'Église, mon souhait pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez continuer de marcher avec Jésus. Alléluia, ça, c'est vraiment mon souhait. Que personne ne rétrograde, on appelle souvent ceux qui freinent un peu, on en connaît tous. et même prier pour que les rétrogrades reviennent. Pas à l'église, souvent, là aussi, des défauts hein, de langage. Seigneur, ramène-les dans ton église. Non, Seigneur, ramène-les auprès de toi. Après, évidemment, ça se fait naturellement dans l'église, évidemment. Que vous soyez enracinés et fondés. Ça, c'est vraiment mon souhait pour l'église et pour chacun d'entre vous. Que vous soyez affermis, encore, davantage. Et que vous abondiez en action de grâce. J'avais dit tout à l'heure, et c'était le dernier verset, j'avais oublié le fameux 3 Jean, chapitre 2, qui nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. » Voilà les bonnes résolutions pour que des résolutions elles puissent durer. Alors certes, ce matin, il y avait de la matière, on aurait pu même aller un peu plus loin. Mais déjà, commençons, entreprenons. Déjà, changeons de mentalité. Qu'il puisse y avoir cette mentalité de vainqueur à chacun d'entre nous. Dire, voilà, cette année, je veux passer au niveau au-dessus. Je termine, ça fait 3 fois, je sais que je termine. Je me souviens, il y a quelques années, dans une église où on était, une sœur qui est venue me voir début janvier m'a dit « Pasteur, j'ai pris des résolutions. » Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit « Oui, sinon, parce que des résolutions, voilà, est-ce que ça va tenir ?» Elle, sa seule résolution, c'était de venir à toutes les réunions de l'Église. En semaine, parce qu'à un moment donné, elle venait pas. Et puis, cette sœur, elle s'y est tenue. Je vous promets, et on ne dit pas ça pour, je ne sais pas, tirer, c'est juste quelque chose, si on met des choses en place, alors on va plus loin, on progresse, on grandit avec le Seigneur. Cette sœur, c'est celle que j'ai vue le plus progresser dans l'Église. Elle avait un caractère, mon prédécesseur qui me disait, alors elle va comment la sœur ben, je lui dis, écoute, elle est transformée. Gloire à Dieu, il me disait. Parce qu'il me disait et quand il me décrivait la sœur, en fait, on n'avait pas idée. Quand on l'a côtoyée, là, quand on la côtoie, là, maintenant. Parce qu'il y a eu une transformation. Et la transformation, et elle le dit, et c'est son témoignage. La transformation, elle a été quand elle a mis des choses en place. Frères et sœurs, combien de prédications, de conseils, d'exhortations on reçoit à longueur d'année? Combien on en met en pratique? Et peut-être que c'est l'occasion favorable, dans ces temps de réflexion, de résolution, de dire cette année, je veux m'engager, je veux aller plus loin avec le Seigneur, et je crois que le Seigneur va se manifester, il va se glorifier de façon extraordinaire au travers de vos vies, dans vos familles, dans vos foyers, là où vous travaillez, et vous serez bénis, et plus que bénis, dans le Seigneur. Alléluia, amen, on prie le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu veux que les résolutions que nous prenons, elles puissent durer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour cela. Seigneur, que nous puissions vraiment nous engager cette année, aller plus loin, aller de l'avant. Seigneur, à continuer à t'être agréable. Seigneur, je veux te prier pour mon frère, ma sœur, peut-être qui se sent dévalorisé, qui se sent faible. Mais Seigneur, je lis dans ta parole que toi, tu te sers des choses faibles, Seigneur, pour confondre les fortes. Alors, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, que chacun puisse prendre ses résolutions à cœur, les tenir, Seigneur, et que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Et nous te demandons vraiment toute ta grâce pour nous tous. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité et le règne. Merci, ô notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia.